Bienvenue sur le podcast de Nat et Véro, le podcast qui vous révèle ce que pensent les hommes de la relation homme-femme. Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Guillaume, 29 ans, qui vient de Montpellier et qui est mannequin.
Tout à fait.
Salut bonjour, Guillaume.
Tout à fait, bonjour.
C'est notre Guillaume numéro 3 chez Nat et Véro. Je ne sais pas ce qui se passe avec les
Guillaume.
Il y a 3 Guillaume déjà.
Tu es le 3e.
Ok, donc je suis le 3e. Je suis un peu vexé.
Avec encore une belle voix, parce que les deux autres Guillaume, ils avaient une voix de dingue.
C'est vrai.
En tout cas, selon les auditrices.
Ok.
Et toi aussi.
Bon,
ça passe
très bien.
Merci. Désolé pour les autres. C'est le retour des auditeurs. C'est pas bon.
Vous n'avez qu'à s'appeler Guillaume, c'est tout. Alors, comme on te l'a dit, dans la saison 4, on aime bien demander à nos invités de venir avec un objet qui
D'accord.
les caractérise, un objet un peu fétiche qui leur tient à cœur.
D'accord.
Avec quoi tu es venu aujourd'hui, Guillaume ?
Alors, je suis venu avec, c'est pas très original, mais je suis venu avec mon sac de sport, mais c'est ce qui, mine de rien, me caractérise dans la mesure où j'y suis à peu près tous les jours de par mon métier.
J'imagine.
Et de par le fait que j'ai toujours été sportif depuis tout jeune. Et ce sac de sport, je me le traîne depuis que... j'ai vécu aux États-Unis, donc ça fait presque une dizaine d'années que j'ai ce même sac de sport.
Ah ouais,
donc
ouais.
Il a vécu.
D'accord.
Il est propre.
Mais, ouais, mais grave, il est tout neuf, bleu marine.
Bleu marine.
C'est quoi comme marque ?
C'est Asos.
Ok.
Voilà, ouais. c'est 19,99$ à l'époque.
Ça
et ça me tient nickel. C'est parfait.
On mettra le lien swipe up pour acheter le sac de Guillaume.
On n'a pas encore le swipe up.
On
n'a
pas le swipe up. Il nous faut plus d'abonnés. Ok, bah super. Donc sportif.
Ouais, c'est ce qui me définit beaucoup. Ouais. Donc comme je vous le disais, je suis parti aux États-Unis pour jouer au foot et en même temps pour finir mon université. C'est ce qui a un peu payé mes études et j'ai toujours été très footeux. Et là maintenant, je suis obligé de faire du sport un petit peu quasi tous les jours. Et ça, ce qui me définit un petit peu aussi dans la mesure où j'ai un peu la bougeotte et un peu hyperactif. Donc il faut que je sois au sport un peu tous les jours.
Parfait, très bien.
Voilà.
On se passe aux petites questions.
Ah oui, après, on a un deuxième petit jeu pour se faire une idée un peu de qui tu es.
Oui.
Il y a une alarme qui sonne.
C'est peut-être mon réveil à 13h.
Ah non, je crois que c'est
bien. 13h, il serait peut-être temps de se lever quand même.
On voit que Véro ne travaille pas. Un réveil à 13h, on adore.
Non, c'était pas un réveil, c'était un rappel pour faire quelque chose.
Très bien. Écoutez, très bien.
Pour imprimer des documents, voilà, ça intéresse tout le monde.
Ça ne me regarde pas.
Bon, on repasse au jeu, s'il vous plaît.
On repasse au petit jeu. Pour se faire une idée de notre invité, on a un petit quiz un peu du tac au tac où tu peux nous répondre. Et donc, on va commencer avec est-ce que t'es plutôt sauce salée ou sucrée chez le japonais ?
Salée.
Est-ce que t'es Marlboro ou vapote ?
Marlboro.
Ah, ça tu fumes quand même.
Ça doit s'entendre à la voix. Ouais.
Je fume pas. Sportif, mais fumeur.
Ouais, je ne fume pas une cigarette du lundi au vendredi, à partir du moment où je suis en terrasse de café ou en terrasse de bar ou quoi que ce soit et que j'ai un verre d'alcool à la main.
Ouais.
C'est parti.
C'est la clope mondaine.
Voilà, et c'est ouais. La clope mondaine, exactement.
On est d'accord. Camping ou hôtel ?
Bah, on va dire hôtel.
Expresso ou Starbucks ?
Starbucks, à l'américaine.
Ouais. Double cheese ou côte de bœuf ?
Côte de bœuf.
Voilà. Avec ou sans pourboire ?
Avec pourboire, l'américaine encore.
Le bon tips, tu confirmes ?
Le bon tips, ouais. De 15 à 20%, ouais, je m'en souviens encore.
Espèce ou carte bleue ?
Carte bleue, et je devrais prendre des espèces.
Plus souvent.
Ça m'éviterait de dépenser des tonnes, justement, avec la carte bleue. Ouais.
Avec ou sans tabou ?
Ah. J'aime bien cette question.
Ah, c'est pas mal.
Pour une fois que tu les aimes bien, parce qu'en fait, c'est le nouveau jeu de Nat, mais Véro, des fois, elle est pas fan.
Allez, on va dire avec tabou.
Avec tabou ?
Avec tabou.
On pourra en parler plus sérieusement après.
Plus sérieusement, très bien.
MP3 ou Vespa ?
MP3 ou Vespa ? Vespa.
C'est quoi MP3 ? C'est le truc à trois roues, là ?
Exactement.
Avec le...
C'est les trois roues.
Où t'as pas besoin de mettre de
casque. Non, c'est juste un scooter à trois roues.
C'est un scooter à trois roues. Et en plus, c'est un peu casse-gueule, apparemment.
C'est pas ce que t'as,
c'est ce que j'ai.
Ah, okay.
Pour l'instant, c'est bon.
Je te souhaite que du bonheur avec MP3.
Mais plus Vespa. Okay. Okay. Mais toi, t'es à pied ou en métro ?
Je suis en métro ou à pied, ouais. Je vais pas tarder à investir dans un scooter, donc je vais peut-être partir sur un Vespa. Bref, je ne sais pas pourquoi je parle.
Et la dernière, manuel ou automatique ?
Manuel, j'ai appris sur une manuelle.
C'est pour la conduite.
Pour la conduite. Tout ce qui est véhicule, voiture.
Ça m'intéressait de savoir. Écoute, Véro.
En tant que sudiste, t'es obligé d'avoir le permis à 18 ans, sinon tu peux rien faire. Quoi.
Voilà.
C'est pas faux.
Et ouais, mais tu connais pas, toi, ça, Véro.
Attends, j'ai le permis à 19 ans, moi.
Elle vient du 94.
94. Alors, d'accord, on se connaît hyper bien.
Cette personne ne se connaît pas.
Non, moi, elle vient de la banlieue parisienne et elle sait pas ce que c'est d'avoir besoin de son permis à 18 ans.
Véro. Bah, je l'ai peut-être. Eu à 19.
Oui, mais t'étais en RER.
C'est déjà un an trop tard.
Non, j'avais une voiture.
Ah, qu'est-ce que t'avais?
Une
106, la classe.
Parce que nous, c'était vraiment genre, mes parents me disaient genre, mais si à 18 ans tu veux aller à la plage tout seul, tu passes ton permis. Et donc, effectivement, c'est une source de motivation.
Ah ouais,
ça motive pas mal.
C'est clair.
Et justement, t'étais quel genre d'ado, Guillaume?
Super transition.
Voilà. Alors, quel genre d'ado j'étais? Pas perturbateur, mais très fêtard.
Provocateur?
Un peu provocateur, très fêtard. J'ai toujours été entouré de ma bande de potes. J'ai eu une copine très tôt, mais j'avais toujours mes potes à côté.
C'est quoi très tôt ?
Je l'ai eu à 16 ans. Et ouais. C'est ce qui a été quasi ma plus longue relation, parce qu'on a fait quasi 5 ans. On a fait, donc c'est un peu bizarre de faire son adolescence, entre guillemets, en même temps qu'avoir sa plus grosse relation. Donc c'était quasi de 16 à 21, qui était aussi, si on peut partir, ma première expérience aussi vraiment sexuelle. Donc ça a fait de 16 à 21, et bon, après, bref. Mais niveau ado, j'étais, ouais, non, fêtard, sociable, mais un petit peu casse-couille, quoi, si je peux dire ça.
Comme tous les ados.
Avec du succès auprès des femmes, ouais. Auprès des filles, pardon.
J'ai jamais eu trop de soucis là-dessus.
Ouais.
J'ai jamais eu trop de soucis là-dessus. Mais comme j'ai été avec une copine très vite, enfin voilà, je me suis casé. Ouais. Et après, bon, on développera plus tard cette relation.
Et juste ton modèle parental, est-ce que tu as des frères et sœurs ?
J'ai un petit frère qui a 27 ans, qui pendant que moi j'étais aux États-Unis vivait à Londres. Et il est rentré là dernièrement. Et on est frères, en même temps meilleurs amis, en même temps...
Cool.
Jusqu'à 16, on a 2 ans et demi de différence. 16-18, on se côtoyait pas trop. Et à partir de 16 à 18, on est devenus les meilleurs amis du monde.
Best friend forever.
Best friend forever.
Génial, trop bien. Ouais, tes parents sont encore ensemble ?
Mes parents sont encore ensemble. J'ai un modèle parental et familial assez classique. Et donc, je pense que ça aide peut-être. Je sais pas si ça aide ou ça aide pas, mais ouais, ils sont encore mariés, ensemble. Donc, tout va bien de ce côté-là.
Et c'est un truc que tu as envie de reproduire ou au contraire de...
Alors,
pas forcément.
Pas forcément, dans la mesure où je ne me vois pas du tout marié, je ne me vois pas avoir d'enfant, mais je disais ça déjà il y a 5 ans, je vais quand même avoir 30 ans dans 6 mois, et je suis toujours sur ce même modèle où je veux rester célib. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas retrouvé encore la bonne personne et ça m'empêche de me projeter. Et pour l'instant, je me vois pas trop me marier. Après, c'est purement, c'est personnel. Après, on me dit toujours, tu verras dans 3 ans ou dans 2 ans, quand t'auras trouvé quelqu'un, ça te fera peut-être complètement changer d'avis. Peut-être pourquoi pas pour le mariage, mais pour l'enfant, j'ai beaucoup plus de mal. Je n'arrive pas à me projeter encore.
Je pense qu'on n'est jamais prêt. On avait quelqu'un qui nous disait, je crois qu'on n'est jamais prêt.
Je pense qu'on n'est jamais prêt. Et après,
c'est clair. Et donc des hommes à la maison. Est-ce que ça parlait un peu amour et sentiments ? Est-ce que vous disiez je t'aime ? Vous avez été
C'est très bonne question, ça. Non, je crois que je ne l'ai jamais dit à ma mère ni à mon père.
Ah
mais
ouais.
Ils le savent, mais je ne l'ai jamais dit. Mon père me l'a quasi jamais dit aussi, je pense. Mais ouais, non, comme c'était un univers assez masculin, non, je ne l'ai jamais dit. Ouais.
Vous ne montrez pas. Et la maman au milieu
La maman, elle essayait un peu de... Bon, elle essayait un peu. Bon, on sait qu'il y a de l'amour.
Ouais.
On a une très bonne relation, malgré qu'il y ait un peu la distance. Mais on ne se l'est vraiment jamais dit ouvertement. Je crois que je l'ai écrit un jour pour ma mère, pour un mot d'anniversaire. Mais je ne l'ai jamais vraiment dit.
Vous ne verbalisez pas tout ça?
Non, on ne le verbalise pas.
C'est pas facile à dire.
C'est pas simple.
C'est très compliqué à dire.
Et t'arrives à le dire plus facilement, par exemple, à ta copine que t'as eue de 16 à 21 ans.
Ouais.
T'as réussi à lui dire à elle,
ouais,
de manière plus simple,
ouais,
qu'à ta famille.
Ouais, de manière beaucoup plus simple, ouais, qu'à ma famille. J'ai jamais dit ça à mon... Ah si, peut-être à mon frère. Après quelques verres en soirée. voilà, mais sinon c'était...
Mec, je t'aime.
Je t'aime, frérot. Je t'aime. Voilà, c'est plus parti comme ça que, ouais, vraiment quelque chose d'un élan, vraiment, à 16h l'après-midi autour d'un café.
Ouais.
Se le dire entre quatre yeux.
Ouais.
Non, même si je pense que ma mère, mon père, enfin tout le monde le sait, mais non, j'ai rarement réussi à le dire vraiment ouvertement, même jamais.
En tout cas, c'est important qu'on se le dise quand même. Ouais. C'est, on en parlait encore il n'y a pas longtemps avec un invité. Il faut se le dire. Et, ah, mais c'est dur, mais essayer. Il faut qu'on se force un petit peu. Parce que, en fait, ça fait du bien.
Mais ça fait du bien. Je suis absolument. Et c'est fou que vous me disiez ça, parce que j'ai eu cette discussion avec mon meilleur ami qui s'est marié, bref, il y a 2 ans. Donc, j'étais son témoin. Et on discutait de tout ça. Et il ne l'avait jamais dit comme moi. Et du jour au lendemain, il a commencé à le dire à sa mère, qui est un petit peu plus âgée. Et du coup, il s'arrête plus maintenant. Il arrive à le dire. Une fois qu'il l'a sorti, il arrive à le dire. Donc,
c'est clair. Et ça fait du bien.
Il faut arriver à le dire.
Pour la personne, déjà, ça soulage, ou je sais pas, ça procure. Et c'est à la personne qui le reçoit. Mais au début, c'est un peu gênant, c'est vrai. Tu vois, on a un peu la même.
Ouais. C'est de la pudeur aussi. On n'est pas habitué.
Vous y arrivez, vous, personnellement? Enfin,
moi, je l'ai dit.
Je vais vous faire l'interview.
Ça sera ton tour à la fin de l'interview. Mais oui, moi, je l'ai déjà dit. Moi, je dis souvent. C'est ma petite sœur, moi, qui me le dit souvent.
Ouais.
Qui m'a aidée à lui dire. Et à ma mère, oui, mais pas. C'est pas un truc que je dis tous les jours.
Mais c'est pas un truc. Ouais, ok.
C'est vraiment dans des moments.
Ouais.
Après, c'est vrai, moi j'ai vécu un peu à l'étranger aussi. L'éloignement a fait qu'il y a des moments où tu l'écris, où il y a des moments de vie aussi où tu vas le dire. Mais effectivement, moi j'ai grandi avec 2 frangins et non, c'est pas les meilleurs pour exprimer leurs sentiments.
Ouais, non, c'est.
Si vous m'écoutez, moi je vous aime, mais.
Mais voilà.
C'est beau, c'est dit.
Non, mais c'est vrai, c'est pas les meilleurs, mais j'essaie de plus en plus leur faire des compliments et leur dire. Ouais. De là à dire je vous aime, je t'aime, comme ça. En face-to-face, c'est difficile.
C'est assez difficile. Ouais. Je me souviens quand j'avais fait les années, mes 3 ans aux États-Unis, il y a un moment, j'ai pas vu ma famille vraiment d'un an, jour pour jour. Et quand on s'est revu, c'est bon, petite accolade câlin, quoi. Et bon, après, voilà. Mais
un peu gêné.
Un peu gêné, mais après, jamais, non, très ouvertement. Non.
Ouais.
Et ça m'y fait réfléchir encore.
C'est clair.
Du coup, on va repartir sur cette histoire qui a duré de tes 16 à tes 21 ans.
Oui.
Parce qu'on a quelques petites infos par rapport à ça.
Ouais.
Comment vous vous rencontrez rapidement? Pourquoi tu l'as choisie, elle?
On était à Montpellier, on était dans... Bon, je peux citer son prénom, c'est Léa, elle va se marier en octobre d'ailleurs, je souhaite tout le bonheur du monde si elle m'écoute. Mais ouais, on était dans 2 lycées différents à Montpellier, et elle me courait un peu après, et on se courait un peu après, et un jour en soirée, des soirées à 16 ans, donc après 3 bières, bon voilà, on a commencé à se faire un premier bisou, et sa mère était prof dans mon lycée. Et je ne sais jamais si c'est vraiment pour moi qu'elle a changé de lycée, ou c'est parce que sa mère lui a dit « viens dans mon lycée » ou quoi que ce soit, mais elle est venue dans mon lycée du coup. On a commencé à se mettre ensemble, de fil en aiguille, c'est créé une réelle relation.
Attends. Je pense que c'est le micro. On a des soucis en ce moment. Mince. C'est bon? Ouais, vas-y.
C'est bon, ouais. Nos parents ont commencé à se rencontrer, on a commencé à avoir une réelle relation, même si on était encore assez jeunes. Là, c'était, on devait... avoir 17 ans, après qu'il y ait 1 an de relation. Et il y a eu un petit souci dans la relation où elle m'a trompé. Elle m'a trompé alors que moi, j'étais vraiment... là,
réglo.
J'étais le mec réglo, amoureux, à offrir des fleurs, limite, toutes les 2 semaines. Et donc, elle m'avait trompé avec quelqu'un de mon entourage.
Et à 17 ans, comment tu réagis à ça?
Je m'en souviendrai toujours. On était chez elle. J'apprends ça. C'était pas exactement Montpellier, elle habitait dans un petit village à côté, donc il y a à peu près 1h30 de marche si je devais rentrer chez moi sur une petite nationale. Et j'ai commencé à vouloir partir, vraiment, genre je rentre à pied parce que je n'avais pas encore mon permis à 17 ans. Ouais. J'étais vraiment pas loin d'avoir 18. Elle m'a retenu, elle me dit non, dors à la maison. Donc bon, on a dormi chacun à 8 km du lit et le matin je me suis réveillé, je l'ai excusé. Pas vraiment excusé, mais bon, ça a commencé à passer, j'ai commencé à pardonner. Et donc on a repris une relation normale, sauf que moi, je sais pas, un matin je me suis réveillé, ça a pété, je me suis dit attends merde,
je me suis fait prendre pour un con.
Et au lieu de lui dire ouvertement et d'avoir arrêté peut-être la relation, j'ai continué à faire la fête avec mes amis comme je faisais avant, sauf que je me suis autorisé quelques conneries, quoi.
Et culpabilité, puisque tu te disais quoi, elle l'a fait elle aussi.
C'est ça, parce qu'il y en a pas eu qu'une, je vais être très franc, il y en a eu quelques-unes. La première, j'ai eu vraiment, ça a été un partout, elle l'a appris. Et même elle me l'a dit, elle m'a dit, qu'est-ce que je te dise, donc un partout. Mais moi, après, ça a continué, j'ai eu 19, 20 ans, 21 ans, où au final, de toute façon, la relation, ça a continué, elle avait commencé à se créer sur une base un petit peu bancale. Mmh. Du coup, j'ai continué.
Il n'y avait plus de confiance au final. La confiance avait été brisée une fois.
C'est ça. La confiance a été brisée une fois. Et où moi, justement, après, c'est elle qui était mais sage comme une image, archi réglo. Et moi, je commençais à justement me créer une répute de voilà, je faisais un peu n'importe quoi. Et jusqu'à que je sais même plus si c'est vraiment elle ou moi qui avons mis un terme à ça, mais c'était limite comme un accord. Et.
Ouais, c'est difficile de repartir.
De repartir.
Après une tromperie, après comme ça.
Au début, moi, ça a été vraiment genre, bon, c'est bon. Voilà, t'as fait une erreur. Ouais. Et ouais, mais c'était pas genre au bout de 3 semaines que j'ai commencé à vraiment lui en vouloir. C'est au bout de 6 mois où je pense que c'est revenu. Où d'un coup, j'étais devant la télé, on était à deux, comme ça. Et d'un coup, je fais merde, mais attends, dans ma tête, mais elle m'a trompé. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça?
Et après, en fait, j'ai réagi un peu à retardement finalement.
C'est ça, j'ai eu une espèce de bombe à retardement et j'aurais dû.
Et pourquoi tu continues à aller voir à plusieurs? Est-ce qu'une fille ça suffisait pas juste pour remettre les compteurs à zéro? Qu'est-ce qui t'a donné envie de recommencer en fait finalement plusieurs fois après?
Après, je pense que ce qui m'a pas donné envie de recommencer, mais en fait, ouais, je pense que j'aimais encore cette fille. Mais je savais que j'aurais dû y mettre un terme, mais je savais que ça ne durerait pas parce que c'était trop. Il y avait eu trop d'erreurs que entre nous deux, enfin trop de non-dits. Donc du coup, je la gardais sous le coude entre guillemets, mais sauf que c'est affreux ce que je dis. Mais bon.
Non, mais c'est.
Et après, du coup, voilà, moi, je continue à faire soirée, vivre ma vie. Je l'aimais encore énormément.
Mais est-ce que c'était une manière aussi de qu'elle mette un terme? De son côté, qu'elle voit que toi tu continues à t'amuser de ton côté, et t'aurais préféré que ce soit elle qui mette un terme.
Je crois que c'est exactement ça. Ouais. Je crois qu'en fait je faisais tout pour
parce que parfois on n'a pas les mots, raisons, mais
c'est
on
ça,
agit.
J'avais pas les mots, mais je crois qu'elle faisait, je faisais tout pour que justement pas qu'elle me déteste, mais qu'elle mette un terme à tout ça justement, ouais. Parce que elle aussi m'aimait encore, mais bon. Et on était un peu jeunes, enfin même assez jeunes, parce que sur la fin on avait 21, quelque chose comme ça. Donc mettre des mots là-dessus quand c'est ta première relation, c'était ma première expérience sexuelle aussi avec une fille, donc on a tout créé ensemble. Ouais. C'était assez ouais.
Mais ça dure 4 ans en fait finalement cette histoire.
Ouais, 4 ans et demi même.
Ou 4 ans et demi où chacun de vos, enfin du coup toi de ton côté tu vas avoir d'autres nanas.
Moi
et
je vais
avoir
d'autres nanas, elle pas, ou enfin peut-être pas. Je ne sais pas trop, mais au fond il y avait énormément d'amour. Y avait, vraiment comme c'était la première relation, nos parents se connaissaient, faisaient des bouffes ensemble. Et puis voilà, et puis là maintenant elle va se marier, donc je pense que tout se passe très bien. Mais
et c'est difficile toi de repartir sur une nouvelle relation après, de te reconstruire, de
faire confiance.
Ah, j'ai galéré, ouais. J'ai mis je me suis séparé, après j'ai rencontré une autre fille avec qui on se voyotait déjà pendant la période avec voilà, qui est ensuite devenue ma copine
une
plus
maîtresse.
Tard une maîtresse non, story j'avais pas dû donner de nom au début, bon bref, ouais, avec une autre fille, mais bon là j'ai pas réussi à repartir vraiment dans une relation, donc j'ai vu des filles où c'est les mini relations. Après, je suis parti aux États-Unis, donc j'y ai vécu 3 ans. J'étais à l'université, puis après, je suis parti à New York. Puis enfin, bon, impossible de se poser, hein, personnellement, de créer quelque chose.
Pourquoi c'est si difficile?
Parce que je savais qu'il y avait une échéance, en fait. Ouais. Et il y avait, même si mon rêve est de vivre encore aux États-Unis, je vais essayer d'y repartir. Je pense que toi, comme moi, tu connais les problèmes de visa pour y repartir, du coup.
C'est assez compliqué. Du spoiling. Véro est en train de regarder des visas pour les US.
Ah oui, mince. Ah, bon, excusez-moi. Je dévoile des secrets.
Tu retourneras un jour, mais
j'essaierai d'y retourner un jour, et sans forcément que ça soit mon but premier, je me disais mine de rien, comme j'avais pas trop moyen d'y rester via des moyens normaux au niveau du visa, je me suis dit mais tiens, tu vas te trouver une américaine, tu attends de te marier, et ça sera beaucoup plus simple. Non, mais plus sérieusement, ouais, comme je savais qu'il y avait une échéance, une date de retour, je me voyais
pas,
j'arrivais pas à m'investir, et mine de rien, c'était un peu mon rêve de sortir avec une américaine, une étrangère ou quoi que ce soit. Mais c'est assez difficile de construire quelque chose avec quelqu'un de complètement étranger. Mine de rien, au final, je me suis retrouvé quand je sortais avec des filles aux États-Unis. C'était ou des filles de ma classe française qui étaient parties aux États-Unis avec moi. Mm-hmm. Ou quand j'étais à New York, je me retrouvais dans un groupe de Français où je sortais avec des Françaises, pardon, et non des Américaines.
On en a parlé dans un autre épisode avec Anis. Non, avec... avec John. On a parlé dans un autre épisode avec John et il disait exactement la même chose, que c'était difficile avec les Américaines. Qu'est-ce qui est si difficile?
C'est moi je. Après, je sais pas si c'est avec les Américaines ou non. Bon, déjà,
enfin, en tout cas, une étrangère.
Ouais. Bon, déjà, l'Américain moyen et l'Américaine moyenne est très, tu vois, comment dire, extraverti, ouais. Tu vois, alors que nous, on est un petit peu plus cartésien, terre à terre. Et je sais que moi, avec une fille, j'aime bien jouer sur les petits jeux de mots, ça va être très verbal. Et c'est un peu difficile de justement, où tu vois, quand t'es pas fluent, enfin si, j'étais fluent, mais j'étais pas bilingue. Et quand tu peux pas faire marcher un petit peu d'humour,
subtilité.
Faire passer une subtilité, tu vois, donc c'est assez, c'est assez brut de décoffrage. Donc c'est ça qui est un petit peu plus compliqué, je pense. Et je pense que les Français, on est quand même une nationalité assez, peut-être pas à part, mais on a quand même notre caractère et notre manière de vivre et d'être. Je pense que c'est pour ça qu'au final, même de l'autre côté de l'Atlantique, tu te retrouves à peut-être te retrouver avec une Française.
Et qu'est-ce que tu as trouvé compliqué, en fait, vraiment? Qu'est-ce que tu as aimé chez les Américaines, ou qu'est-ce que tu as préféré chez les Françaises?
J'ai aimé le côté, justement, où en fait, de suite, c'est très... très ouverte,
pas de filtre,
très sympa, ça se fait un câlin, ça rigole énormément. Et il y a un revers de la médaille où des fois t'as l'impression que c'est un peu hypocrite, et t'as l'impression que c'est une relation qui est que en surface, quoi, qui est en surface. Et c'est ça que j'avais un petit peu de mal à capter et à m'adapter, en fait, là-dessus, quoi. Je trouve qu'on est quand même plus franc du collier, nous, les Français. On a plus de mal à sortir les choses.
On connaît les codes.
Ouais. C'est ça.
On a le même langage.
C'est vrai que dès qu'il y a une autre nationalité, c'est un peu différent. Ouais. Quoi. Il faut s'adapter. Et c'est pas forcément évident.
J'ai fait des pure dates comme un Tinder ou un Bumble aux États-Unis. C'est compliqué. Au début, t'as le côté genre waouh, putain, il est français, c'est génial, t'as le petit accent, machin et tout.
Le petit plus.
Mais t'as pas mal de blocages aussi, où à un moment tu te comprends pas, tu lui fais répéter 50 fois le truc, tu vois, c'est assez compliqué.
Et
quoi, de suite.
C'est vraiment le dating là-bas, quoi. C'est vraiment, tu juste la première, tu bois un verre, quoi.
Tu bois un verre, c'est vraiment le dating. Et c'est, tu vois, ça me rappelle un peu les émissions, je sais pas si vous vous souvenez, sur MTV, ou sur ce genre, ou sur MCM, ce genre d'émission où ils dataient comme ça, ils allaient au bowling ou un truc comme ça, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'était un peu pareil là-bas, fallait que le date il soit à thème, quoi. On va boire un verre autour d'une terrasse.
Faut faire une activité, quoi.
Viens, on va faire un accrobranche. Non, tu vois, faut que ça soit vraiment. Pour moi, c'était un peu ça, fallait qu'il y ait un thème. Déjà, t'as rarement une terrasse de café, tu vois, française, ou. C'est un peu plus compliqué à trouver. Mais ouais, je trouvais que c'était assez à thème, ouais. Donc c'était assez étrange. Enfin voilà, c'est encore une fois, ça va paraître très banal ce que je vais dire, mais c'est vraiment une autre culture et des fois ça match et des fois c'est quand même un petit peu plus compliqué.
Ouais, sinon il faut donner un peu plus de temps, quoi, pour essayer de se connaître et aller en profondeur, quoi.
C'est un peu ça. Rester.
Et donc au bout de 3 ans, tu rentres en France ?
C'est ça.
À Montpellier ?
En fait, j'étais encore à New York quand je recommençais à parler à cette fille avec qui je me suis mis en couple par la suite.
Ah. Donc c'était ta maîtresse ?
C'était
une des maîtresses.
Pour essayer de resituer, c'était un de mes premiers bisous à 15 ans, même avant ma relation. Okay. On se connaît depuis toujours.
D'accord.
C'est-à-dire qu'une de mes meilleures amies s'est mariée l'année dernière. On était au mariage ensemble, après notre séparation. On se connaît depuis qu'on a 15 ans. On a commencé à flirter ensemble à 15 ans. Après, moi, je me suis mis avec cette fille. C'est passé 4 ans de relation. Après, j'ai revu donc cette fille avec qui, donc on a commencé, à se voir, à coucher ensemble, sans être vraiment ensemble. Et elle me courait après. Vraiment, elle me courait après.
Mais pas toi?
Mais pas moi.
Elle t'intéressait pas plus que ça, du coup?
C'est ça. Donc, juste, et le fait qu'elle me court trop après me faisait fuir.
Ouais, je te fuis, tu me suis.
Le truc complètement bête. Et donc se passe tout ça, et je m'en souviendrai toujours, la veille de partir aux États-Unis, on dort ensemble et tout, hein, c'était vraiment, on dort ensemble, je pars aux États-Unis et moi genre quasi pas d'émotion.
Je ressens quasi rien,
je fais voilà.
T'es dans un autre état d'esprit aussi, tu sais que tu as vu ton expérience.
Je savais que je partais aux États-Unis.
Ouais.
Et c'était après, donc l'université se passe, c'était fin d'université au moment de mon diplôme, on commençait à se renvoyer des messages, après je pars à New York, on continue à s'envoyer des messages, et au milieu de mon année, un an et demi à New York, je rentre en France pour Noël pour un mois, et là on se voit, on se voit, on fait une soirée ensemble, on termine ensemble. Et là, c'est moi à mon tour qui me dis, putain, mais je crois que je l'aime bien, en fait. Je l'aime vraiment bien, mais même plus que bien. Où là, je repars aux États-Unis en me disant, mais je crois que je vais faire un mois à New York et je rentre, c'est pas possible.
Mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement?
Ben, je ne sais pas. En fait, je pense que c'est elle qui, au niveau de sa personnalité.
C'est mec.
Mais je pense que non, mais je pense qu'elle, comme elle me courait après déjà à l'époque, pour moi, je sais pas, comme j'avais l'impression que c'était simple et que c'était, voilà, c'était donné, quoi. Entre guillemets, c'est horrible à dire, ça aussi.
C'était acquis.
C'était acquis. Et je sais pas, elle avait pris du chien, du caractère, je sais pas, et quelque chose qui m'attirait vraiment. Et du coup, donc je suis reparti à New York, on s'écrivait tous les jours, on était ensemble. Hein. Je dis, bon, au bout de 6 mois, je rentre. Donc au bout de 2 mois et demi, je craque, je lui fais, bon, viens. Je lui dis, tu prends ton billet, je t'héberge, je te fais vivre là-bas, il n'y a pas de souci. Donc on passe 3 semaines à New York. C'était génial, trop bien. Et donc, voilà, 2 mois et demi, je rentre plus tard en France. Je rentre à Montpellier, je passe l'été à Montpellier, avec elle, hein, bien évidemment. Et là, on se dit, bon, ben, on monte à Paris ensemble. Moi, je trouve du travail à Paris. Elle n'en avait pas encore. Et on emménage ensemble directement. Donc, on a emménagé ensemble. On a fait un an et demi. Les 6 premiers mois, génial. 8 premiers mois, un peu plus compliqués. 1 an où ça commence un petit peu à...
à capoter.
Et où, au final, moi, pour moi, justement, moi, j'étais dedans, quoi. J'étais vraiment amoureux. Et je pense que c'est elle qui m'avait sorti une phrase que... Bon, là, je pense qu'elle s'en reconnaîtra direct quand je dirais ça. Mais qui m'a dit, genre, j'étais tellement couru après. Même quand t'avais genre 20 ans ou t'étais encore avec ton ex-copine, j'étais tellement couru après que ça fait 10 ans que je te cours après que là maintenant je sais pas, j'ai donné.
Quoi. Elle est arrivée à bout quoi.
Et je suis arrivé à bout et comme j'ai eu ce que j'avais, ce que je voulais. Ben voilà, c'est je suis arrivé au max quoi. Et moi j'ai fait ah merde, merde et du coup voilà.
Mais genre, voilà quoi, c'est un peu un choc quand même.
C'était un choc.
Parce que toi, tu dis que t'es amoureux d'elle, vous emménagez, enfin, vous êtes.
C'est ça, on emménage. Ça puait un peu la fin. Ça commençait un peu à capoter, même si moi, j'essayais de me le cacher parce que j'étais vraiment amoureux. J'étais vraiment amoureux, donc voilà, j'essayais de me cacher un peu la vérité. Mais ça sentait un peu la fin et c'est un soir de réveillon où on fait
le... Ah bah sympa.
Ouais, on fait
nouvelle année.
On fait le réveillon, on fait le réveillon chacun de notre côté. Donc déjà bon
c'est
voilà.
Sympa, bon.
Où on fait la fête chacun tard de notre côté, je rentre à 6h, elle rentre à 7, ça part sur une engueulade et le lendemain on dort pas de la nuit et le lendemain en mode bon ben bah, voilà.
Ouais.
Ça en est trop. Way too much.
Mais voilà. Tiens, on parlait justement hier. Il y a eu des signes que quand même, à part ça, qui prouvaient que ça sentait mauvais. Parce qu'on disait souvent, il y a des mecs qui arrivent là et elle est arrivée un matin, elle m'a dit c'est
fini. Elle m'a dit non.
Et il y a plein de mecs qui disent en fait, je l'ai pas vu venir.
Non, moi je le voyais arriver, je le sentais. Ouais. Mais moi, des fois, quand j'en parlais à mes autres potes à Paris, je leur disais mais. Faudrait peut-être que moi j'y mette un terme ou qu'on fasse un break. Moi je voulais faire un break juste pour prendre un peu la température, voir comment ça allait se passer. Mais je savais que c'était inéluctable, ça allait arriver. Et il y avait plein de signes, des signes au lit, des signes où tu vois où bon à la fin tu fais plus grand chose, et au final c'est effet boule de neige. Et donc je savais que ça allait arriver.
Est-ce que cette rupture, elle a été plus difficile à gérer que la première? Parce que la première, c'était quand même ton premier amour.
Ouais, c'était mon premier amour, mais comme je savais que j'avais fait le con.
Ouais. Je savais que c'était mérité, entre guillemets.
C'est mérité. Mais bon, c'était un peu sur la fin. Là, franchement, j'étais pas le mec idéal parce que je devais avoir des défauts, mais j'étais quand même, je donnais. Donc ouais, ça m'a fait encore assez mal. Et elle est encore assez récente, donc.
D'accord.
Mais ça l'a fait plus mal, ouais. Bien plus mal que la première, je pense, quand même.
Et ça se manifeste comment? Ça veut dire quoi, morfler ou se faire mal ou ça fait mal? C'était comment, toi? Comment tu ressens les choses, en fait?
Comment je ressens les choses? Alors, j'ai eu le truc...
Tu t'enfermes?
J'ai eu le truc, je m'enferme, je peux pas sortir, j'en ai devoir personne. Après, j'ai eu le truc, je sors jusqu'à 7h du matin. Mais c'est-à-dire, genre... Mes potes me traînent en soirée, me disent viens on fait la fête, mais bon tu bois entre guillemets tellement, tu fais tellement de trucs que tu penses même pas aux nanas à côté et quoi que ce soit.
Tu penses qu'à oublier en fait.
Après j'ai eu la phase, tu t'inscris sur une appli de rencontre, tu rencontres.
Ego boost.
Ego boost. Ah, je plais encore. Ouais cool, c'est cool. Et donc tu rencontres des, voilà, j'ai rencontré des filles, mais c'est très frivole, donc ouais. C'est des petites relations. Allez, de...
Ouais, puis t'as pas forcément envie de t'y remettre.
J'avais pas envie de m'y remettre.
Franchement,
j'avais pas envie de m'y remettre. C'est ça. Là, ça fait un an et demi. Je commence vraiment à me dire, voilà, c'est bon, j'ai envie de me reposer, quoi. J'ai vraiment envie de me reposer.
Ouais, ça prend du temps, hein, les
ça
aventures.
Ça prend du temps. Ouais. Mais je me dis, je suis encore sur une ou deux de ces applications, même si là, vraiment, je n'y vais plus. Mais je me dis, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un comme ça, quoi. En fait, c'est ça qui m'emmerde. Mmh. J'ai pas envie de me dire. Et puis si un jour j'ai les enfants, dire
ah mes... tu vois que peut-être que
tu vois, j'y retourne. Tu vois, je me dis ouais, je l'ai rencontré sur un réseau social ou malgré
marrant, on a des blocages comme ça.
On a des blocages malgré que le fait que on connaît tous les gens dans notre entourage
où ça a marché,
ça mais marche. C'est un nouveau moyen, c'est un nouveau moyen de rencontre, mais j'espère rencontrer quelqu'un d'autre autrement.
Ouais.
Et du coup, pour...
Belle transition maintenant, non? Via ton métier aujourd'hui.
Exactement.
Oui.
Quand même, quand on est mannequin,
oui.
J'imagine qu'on doit côtoyer...
C'est ça. Donc, il y a une différence un peu entre mannequin, modèle photo. Le mannequin, t'as le mannequin... Oui, je fais du mannequinat, mais je ne suis pas mannequin podium. C'est-à-dire le mannequin...
D'accord.
Vous me voyez, je ne suis pas 1m90, je suis
1m82. Il n'est pas terrible, les meufs.
Non, je fais pas 1m90. Enfin, il y a vraiment le mannequin catwalk qui est comme ça. Où je suis vraiment modèle photo pour des marques de fringues, des
bijoux. Donc on dit modèle photo, alors c'est
plus
bien.
Modèle photo, okay. Voilà, bref, c'est vraiment un détail. Donc c'est assez récent, ça fait une petite année que je fais ça, dans la mesure où je travaille dans la publicité avant, dans des grosses agences de pub. Et j'organisais des shootings pour justement des pack shots produits ou des publicités digitales quelconques. Et c'est un joueur en photographe qui m'a dit tu devrais essayer.
Tu veux pas passer derrière l'objectif?
On verra ce que ça a donné. Donc j'ai essayé, on m'avait dit t'as une bonne tête, essaie. Donc j'ai essayé, je me suis créé un petit book et une agence m'a pris, puis deux agences, trois agences. Et là cet après-midi, je pars sur deux castings par exemple. C'est une vie... on va aller au fur et à mesure.
Ouais.
La question était...
Ouais, j'ai même pas eu le temps de la poser. C'est pas grave.
Je suis en train de tout déblatérer.
Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'est alors si tu modèles photo et voilà, que tu es quand même dans un univers où tu rencontres, j'imagine...
Des gens beaux.
Ouais. Des belles personnes. Ouais. Des gens beaux. Des
très
femmes,
subjectif,
notamment.
Ouais, donc, phénomène assez intéressant depuis que je fais vraiment ça. Parce qu'à un moment, je faisais modèle photo et à côté, j'avais encore mon métier de publicitaire. On va mettre ça... chargé de production. Chargé de production, c'était vraiment exactement mon métier. Ben là, ça fait vraiment 2-3 mois que je fais ça. Et ça fait 2-3 mois que je n'ai pas vu ou daté une nana, comme on peut dire. Je déteste le mot daté et nana, d'ailleurs. Bref, désolé. Mais
le truc qui va pas.
Mais ça fait 3 mois vraiment que je fais modèle et mannequin à plein temps. Et ça fait 3 mois que j'ai pas pris un verre avec une fille. Alors c'est ou parce que j'en vois toute la journée et du coup en fait je pense à autre chose en rentrant chez moi le soir.
T'es lassé, hein,
lassé ou blasé de voir des canons. Alors non pas du tout. Je pense que après non, c'est peut-être le changement d'activité et tout ça. Peut-être que là vraiment j'essaie de m'y consacrer parce que professionnellement faut se relancer quand même dans une nouvelle activité où là j'étais très focus là-dessus. Mais c'est assez étrange parce que t'as des shootings photos où t'es tout seul, hein, que ce qu'on appelle le mannequin catalogue où t'es derrière un fond blanc et tu fais les trois quarts ou t'es tout seul. Après, t'as du mannequinat où tu fais des lookbooks pour des marques où t'es avec une fille. Là, par exemple, je vais partir demain pour trois jours de shooting en Normandie, où je crois qu'il y a une mannequin fille avec moi. Donc, mine de rien, tu passes 2-3 jours avec la personne, avec une fille. Il y a un moment, t'es assez proche. Là où j'ai été le plus proche, c'est souvent pour des shooting wedding, les wedding books, comme on appelle.
Les mariages.
De mariage, tout simplement. Où il y a un moment, tu fake un peu le truc et t'es ça de la bouche de la fille, ou vraiment, genre, donner de l'émotion. Donc, t'es vraiment
tu
là.
Tu dois jouer le couple, quoi.
Tu dois jouer vraiment
genre,
le couple.
L'amoureux.
T'es collé, quoi. T'es quand même assez collé. Donc, c'est assez étrange. La fille est souvent très jolie. T'es pris en tant que mannequin aussi, c'est que t'es pas si mal.
Ouais.
Donc, des fois, t'as pas du tout d'alchimie. Ce qui m'est rarement arrivé. Je trouve que t'as tout le temps un peu une alchimie. Et il faut arriver à se déconnecter vraiment à la fin de la journée. En se disant, écoute, c'était vraiment un métier, tu te dis au revoir, salut, à ciao, bonsoir.
Ouais. Donc t'as jamais eu de...
Donc avec pas mal de filles, j'ai eu à ciao, bonsoir, on ne se verra jamais, ou alors peut-être sur un futur shooting, et avec quelques-unes où justement on continue à discuter, on discute encore, Mais on n'est pas encore allé boire un verre. Mais on se le dit. Tiens, si on allait boire un verre. Il y en a une que j'ai recroisée en soirée par pur hasard où on a discuté. Mais non, je me suis pas vraiment dit parce qu'après c'est vraiment
pas si facile,
c'est
quoi.
Pas si facile. Après c'est un métier. Si tu fais ça avec chaque fille et chaque mec que tu rencontres, c'est un peu compliqué quoi.
Et après, c'est pas... ouais, vas-y, vas-y.
Je t'en prie.
Non, c'est pas le but aussi.
Non, c'est pas le but. Pas...
Donc t'es dans un autre mindset.
Ouais,
quoi.
En fait, t'es dans un autre, c'est ça.
Non, mais ça aide quand même. Tu rencontres tous les jours des bombes.
C'est clair que ça aide, mais après si
des
tu
bombes.
des bombes atomiques.
Mais si tu dis, tu te lèves le matin, tu vois, tu dis genre, je vais pas aller faire mon shoot pour gagner de l'argent, mais je vais aller faire mon shoot pour pécho entre guillemets.
Non, mais l'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre. Je suis absolument d'accord. C'est peut-être que là, comme je suis en train de me lancer aussi, que j'arrive pas trop à tout gérer en même temps, parce que je garde aussi mon métier de chargé de production en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai lancé un nombre de trucs en même temps là, que peut-être que je me dis j'ai pas encore le temps pour une fille, mais ouais, bien évidemment ça aide.
Et t'as donc tout ça pour dire aussi que les mannequins ne servent pas forcément les modèles ne servent pas forcément plus que, et sur Instagram tu disais que t'avais quand même pas mal de nanas qui t'écrivaient parfois.
Un truc, c'était encore hier, avant-hier, franchement je pense sans du tout me jeter, c'est une par jour, une ou deux par jour. Donc
et
si
c'est
vrai,
quoi l'approche?
L'approche, c'est... salut.
T'es trop beau, j'adore.
C'est génial. Il faudrait que je vous montre des approches. Enfin, il y a des approches un peu drôles.
Attends, bah viens, donne-lui son téléphone. On va lire des approches.
Ah oui, c'est
vrai. Bah, c'est pas grave.
Il y a les approches, approches un peu drôles, comme il y a des approches...
Comme Nat et Véro qui l'ont fait venir au podcast.
Ouais.
Tout simplement.
Ouais, c'est vrai.
Au début, j'ai cru que vous vouliez me draguer. Ah. Non, je faisais en fait.
Nat,
c'est super professionnel, nous, le podcast.
C'est ce que je vois.
Franchement,
on mélange pas.
On n'a pas d'idée derrière la tête quand on écrit aux hommes.
Bon, là, il y en a une, c'est j'aurais préféré te croiser ailleurs que sur Tinder. Un bel homme comme toi, ça s'affranchit aisément du virtuel pour faire de belles rencontres. Non. Bon, par exemple, ça, c'est. Bon, là, elle m'a eu via Tinder, donc ça veut dire que mon compte Tinder est encore actif.
Elle a fait le parallèle. Ah, parce que sur Tinder, t'as activé le fait qu'on voit Instagram.
J'ai activé le fait qu'on voit Instagram. Et du coup, ça, c'est peut-être quelque chose que je vais changer.
Ouais, change-le. Je sais pas. Non, mais je trouve que c'est très perso, l'Instagram.
Voilà, j'en ai une, bon, c'est en anglais. Hey you, I'm Kate. I saw you in Tinder and decided to write you here. I'm at Paris for 5 days.
Ah ouais.
Maybe you can advise me what to do here at the evening. Elle est là pour 4 jours. Bon, par exemple, elle est là pour 4 jours. Bon, voilà. Juste pour. Bon, bref.
Ouais, mais maintenant, il y en a plein comme ça. Après sur Insta ou.
C'est ça. Et après, par contre, mon Tinder. Mon Instagram est devenu. Comme je l'ai dit, j'ai dit à mes potes, ça ne sert plus à rien, les gars, de me suivre sur Instagram parce que je suis. Plus mettre tellement de trucs drôles. Après, je sais pas si vous avez vu sur les photos que je mets, c'est les photos qui vont me servir pour mon book ou pour les marques qui viennent me voir différemment.
Ouais,
mais en légende, je vais jamais mettre Only God Can Judge Me ou quelque chose comme ça. Je mets des trucs drôles, histoire de un petit peu détendre l'atmosphère pour pas trop me prendre au sérieux. De base, je suis quelqu'un qui se prend pas au sérieux ou je rigole beaucoup. J'ai atterri dans la photo un peu par hasard. Donc c'est hors de question que je commence à me prendre au sérieux, à mettre. Des phrases à la Baudelaire, des trucs un peu... oui, le délire.
C'est clair, ouais.
Donc, non, je mets des trucs un peu drôles.
On voit.
Et tu fais profiter un peu les potes des soirées avec des mannequins ou des trucs comme ça, ou pas trop? Enfin, ou je sais pas si ça existe.
Ça existe, mais non, parce que c'est souvent, en fait, quand t'es invité seul. Il n'y a pas, invite d'autres de tes potes, ou non, c'est vraiment... T'es entre mannequins, c'est un peu ça. Et même au niveau des... c'est ce que j'ai découvert dernièrement, parce que mine de rien, je suis assez newbie un peu là-dedans. Mais souvent, quand tu marches bien sur un shooting avec une fille, t'as un espèce de commun accord quand une autre marque, tu vois, avec la fille, lui dit genre, ben, on cherche un mannequin mec, est-ce que t'as pas quelqu'un? Et du coup, tu te fais un peu des échanges de business comme ça. Et donc, tu te retrouves à être sur les mêmes shoots avec la fille. Parce que mine de rien aussi, pour les marques, c'est plus intéressant parce que quand t'arrives, tu connais la mannequin dès le matin. T'as beaucoup plus d'aisance, t'es beaucoup plus aisé avec elle à sourire, à être proche, à être complice. Donc, c'est donnant-donnant pour la marque et pour la... ta complice de la journée.
Ouais, ta complice.
Et toi, du coup, quand on est mannequin, quand on est modèle photo, etc.
Ouais, mannequin, disons mannequin.
Tu recherches quoi, toi, chez une femme? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Souvent, les femmes qui... Enfin, souvent, quand un mec, peut-être, qu'on considère trop beau, on n'ose pas forcément aller l'aborder. On se dit, oh là là, il a trop de succès. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il a trop de succès, jamais je serai à la hauteur. Je ne suis pas assez belle pour lui.
C'est fou, parce que j'avais cette discussion, justement, parce que je n'arrive pas à me caser... en ce moment, et je pense qu'en faisant ce métier,
ça va pas t'aider.
Ça va pas m'aider dans la mesure où je suis en constante recherche. J'ai l'impression d'essayer de trouver mieux ou quoi que ce soit. Comme je suis confronté souvent à de très jolies filles, comme on se le disait, j'ai l'impression de me dire ah, tiens, essaie de passer le voilà
l'étape supérieure.
Genre, alors c'est complètement idiot. C'est complètement idiot comme réflexion parce que je suis sorti avec des filles très jolies, mais bon, au final, avec très peu de discussions. Et le plus intéressant, c'est d'être vraiment complice avec sa copine. Et donc, le physique joue bien évidemment, mais il faut que j'arrête de tenter l'escalade de la beauté. c'est un peu bête comme réflexion.
C'est un peu le problème de notre génération quand même.
Mais c'est un peu le problème de notre génération. Comme on est, c'est assez facile presque maintenant de rencontrer virtuellement quelqu'un. Tellement difficile de rencontrer physiquement quelqu'un que bon. On essaie de chercher via des photos, via des applications. Bon, bref.
Du coup, tu recherches plus donc la complicité. Enfin, t'as du mal à mettre en pratique ce que tu veux vraiment. Pour l'instant, c'est plutôt la là, beauté.
Là, je suis sur la beauté. Ouais. Après, j'adore aussi voir les filles que tu vas sur Instagram parce que évidemment, quand t'es sur un shooting, t'es prévenu à l'avance. Souvent, avec le mannequin avec qui tu vas shooter, tu regardes son Instagram et t'arrives le matin. Et tu vois quand même qu'il y a un énorme gap entre ce que tu vas sur Instagram et la fille que t'as en réel. Et ça t'aide mine de rien à redescendre, à être terre à terre, à dire bon mec, c'est bon, ça va, on est tous à peu près normaux. Quand t'arrives sur les call sheets, ça s'appelle genre, quand tu vas sur un shooting, la fille arrive souvent à 7h du matin, le garçon arrive à 9h, parce que la fille a besoin d'à peu près 2h de maquillage. Donc tu t'imagines 2h de maquillage.
Donc tu la vois pas arriver en mode
tu la vois pas arriver vraiment en mode voilà,
sans maquillage, nude quoi.
Et des fois je suis arrivé plus tôt où elle est en construction.
Ah ouais. Construction.
Elle est en chantier.
Ou non, où tu dis voilà, ça reste une fille quand même naturelle, jolie, c'est juste que voilà, elle est tellement sublimée sur les photos, sur Instagram, sur les magazines que ça te... Des fois, toi, ça te fait un peu peur. Et c'est peut-être ce qui te fait un peu peur, ce qui, moi aussi, me pousse au défi et qui... Non, là, maintenant, en fait...
Mais ça va t'aider un peu. Ça va t'aider, je pense, de voir le avant-après. Enfin, de voir aussi que toutes ces belles femmes, déjà que tu côtoies, oui, elles sont belles, mais après, parfois, elles sont belles naturellement.
Elles sont belles naturellement, tout simplement. Enfin, c'est...
Mais ouais, ouais.
Mais c'est après ouais c'est pas
elles du sont tout quand même sublimées.
Elles sont sublimées et toi tu fais attention à quand elles sont sublimées, mais enfin il faut juste que j'arrive à redescendre et me dire non mais écoute j'adorais ma copine, je la trouvais magnifique à 7h30 du matin quand on se réveillait avant d'aller au taf.
Et elle n'était pas mannequin.
Et elle n'était pas du tout mannequin, pas du tout. Voilà, je ne suis pas du tout intéressé que par les mannequins. Même d'ailleurs, je pense que, je pense que si je retermine avec une fille, ça sera sans doute pas une mannequin, parce que le mannequin fait super attention à son image. Je le suis aussi maintenant, donc je souhaite bien du bonheur et du malheur à la fille qui sera avec moi. Et j'espère qu'elle arrivera à se dire que non, je ne pense pas à ça toute la journée, à mon image, à mon truc. Il y a juste le matin, je me brosse les dents, je me mets un petit tir, et puis voilà, après je fais ma journée. Mais c'est un boulot. Après, ça devient vraiment un boulot.
Ouais, c'est clair.
Je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie non plus. C'est pour ça que j'ai mon statut encore d'auto-entrepreneur dans la pub. Parce que c'est particulier comme métier. Là, cet après-midi, je vais à des castings. Je ne sais pas ce que ça va donner. À tout moment, je vais être pris, pas pris. Enfin, c'est une vie qui est comme ça, qui me plaît là beaucoup en ce moment.
Et comment ça se passe du coup les castings là pour des modèles photos? C'est t'arrive et
alors t'as des t'as
du juste des faux...
alors en fait t'as du booking direct. Le booking direct, c'est t'es choisi par la marque sur ton book photo, donc là t'es pris directement. Et après, t'as des castings vraiment pour mais j'ai fait des gros castings pour L'Oréal ou pour Canal Plus ou pour des trucs un peu plus gros. Où vraiment, c'est ton agence qui t'envoie là-bas parce que on cherche un homme de plus d'un mètre 80, brun, la trentaine, et là, t'ouvres la porte dans la salle de casting.
Et il
y a 30 personnes.
Tu vois tes sosies.
Il y a 30 mecs comme toi.
Ça doit être trop bizarre.
Tout le monde se dit bonjour, tu dis, oh putain, c'est la quatrième dimension. Parce que souvent, ils disent, genre, venez avec un jean, t-shirt noir, t-shirt blanc, on est tous habillés pareil, quoi. Tu dis, merde. C'est assez étrange, ouais.
Énorme. Ok, donc là, tu vas te retrouver avec tes sosies cet après-midi, quoi.
Cet après-midi, j'ai pas de sosie. Le deuxième, j'ai les sosies.
Mais du coup, est-ce que ça vous. Ça te fait douter quand tu vois tous ces sosies un peu?
Bien évidemment. Ouais. Quand tu rentres dedans, bien évidemment que.
La compète.
Parce qu'on se dit pour les femmes, c'est assez comme ça. Ouais, mais est-ce que les hommes.
Pour
aussi...
les mecs, c'est pareil. Ouais. C'est la compète, tu te regardes. Ouais. Et en plus. Franchement, ça se joue au détail après parce qu'on a quasi tous la même gueule, quasi le même physique, donc ça se joue vraiment en détail. Donc il faut vraiment arriver à prendre du recul et dire c'est juste parce que le directeur artistique de la marque il a pris ce mec, c'est pas parce qu'il est plus beau que toi, plus machin, il a un physique différent quoi. Ouais. Ce que j'ai vraiment appris à comprendre et parce que si tu commences à dire
c'est clair, tu complexes quoi.
Ouais, tu complexes quoi, tu dis c'est l'enfer après. Ouais.
D'accord. Bon, je pense que tout le monde va vouloir voir des photos, mais vous n'aurez pas les photos de Guillaume. Parce que là, franchement, on a 45 minutes de discussion où tout le monde doit se dire, mais à quoi il ressemble?
Mais à quoi il ressemble? Franchement, vous pouvez donner mon Instagram.
On verra.
On fera un petit sondage.
Les gens veulent le voir.
Exactement. Guillaume. On demandera. Bon, super. On termine par la dernière question.
Ouais, oui.
Carrément.
Et bien, donc, du coup, cette nouveauté pour la dernière saison, on vous donne... quatrième saison.
C'est la quatrième saison.
Non, on a décidé d'inverser les rôles et de vous donner de vous donner le micro et le rôle d'intervieweur.
Ok.
Et donc, tu as une question à poser à Nathé Véro.
La question directe que j'avais, j'en ai une déjà.
Attends, c'est pour mieux comprendre les femmes. Réfléchis bien parce qu'il y en a qu'une.
Ah oui, pour mieux comprendre les femmes.
Qu'aurais-tu envie de savoir ou de leur poser sur les femmes ou sur elles? Voilà.
Sur les femmes en général ou sur vous directement?
Non, mais vas-y, t'avais une question. Donc.
Mais là-dessus, c'est si vous êtes célibataire ou ça, c'était évident.
Mais bon, tu veux répondre ou pas à cette question? Surtout que c'est vrai que si tu lis sur notre site, c'est deux amis célibataires qui ont créé ce podcast, mais effectivement, c'était il y a 9 mois. Donc les choses ont changé.
Il se passe énormément de choses en 9 mois. On est dans la case.
On n'a pas couché. Mais moi, Nat, je suis toujours célibataire, oui.
Ok.
Et moi, Véro, je suis...
allez.
Je suis en pourparler.
Début de relation.
Allez. Félicitations, bravo.
C'est grâce au podcast.
Aide le podcast, allez. Effectivement. Après, voilà, il n'y a rien de sûr, mais voilà. Un bon début déjà.
Ok.
Ouais, tu nous as posé la bonne question parce qu'il y a plein de gens qui se demandent.
Mais qui devaient se poser la question. Et est-ce que. Deuxième question.
On avait dit qu'une.
Est-ce que le podcast, tout ça, ça aide un petit peu? Est-ce que vous avez justement des retours, des témoignages de mecs aussi qui essaient de rentrer en contact ou.
Qui veulent rencontrer Nathé Véro?
Ouais.
Non. On n'a pas eu beaucoup, comme toi, de gens qui nous draguent. Parce que je pense qu'on a quand même 80% de femmes qui nous écoutent.
Ouais, ok.
Et on a des hommes qui nous ont remercié de donner la parole aux hommes, comme ça.
Ouais.
Qu'on faisait un super travail. Ils n'ont pas tenté de nous rencontrer. Pas encore, en tout cas.
Non, mais comme tu dis, c'est surtout des femmes. Et on a beaucoup de commentaires, par contre, de femmes qui nous disent que ça leur fait vachement de bien de nous écouter. Et ça, c'est super. Et on les remercie encore et encore parce que vraiment, à chaque fois qu'on reçoit un message de leur part, ça nous aide à continuer l'aventure.
Et même moi, personnellement, c'était génial comme expérience. Je crois que c'est la première fois vraiment que je déblate ma vie comme ça, mais c'est génial. Final, tu te prends vachement au jeu. Ouais. Ça fait presque du bien quand je vais sortir de là léger.
Chaque fois qu'on sort, on est bien. Vous nous avez appris des trucs. On se sent bien. On vous a écouté. Et généralement aussi, les invités adorent aussi.
Ah ouais, ça fait du bien. C'est une psychanalyse un petit peu.
Et c'est gratuit.
Et ma canon, super. Je vais vous remercier tous les deux.
Ouais, merci Nat, merci Guillaume.
Je vais me pendre. Non, merci beaucoup Guillaume d'être venu et nous avoir fait confiance. Franchement, on a été au culot et le culot ça marche.
Bonne chance pour tes castings.
Merci beaucoup. Et merci à vous deux.
Salut.
Merci beaucoup. Salut. Bonne journée. Salut.